Un plateau, deux invités seuls devant les caméras. Ils sont là pour mener un débat exactement comme ils le veulent. Mais pour commencer, petit aparté. On commence par vous. Qui êtes-vous?
Je m'appelle Étienne Klein, je suis physicien, je travaille au commissariat à l'énergie atomique où je dirige un laboratoire qui s'intéresse aux relations entre physique et philosophie. Et je me suis spécialisé sur la question du temps il y a une dizaine d'années.
Et à votre avis, pourquoi est-ce vous qui êtes là aujourd'hui?
Il se trouve que j'ai écrit plusieurs ouvrages sur le temps qui peut-être vous sont connus et vous ont donné l'idée de m'inviter.
Même question, présentez-vous.
Alors, je suis Virginie Van Vassenov, je suis chercheuse en neurosciences cognitives et je dirige un centre de magnéto-encéphalographie au sein d'une unité UNSERM au CEA de Saclay.
Et pourquoi vous pour ce débat?
Alors, ma recherche est essentiellement concentrée sur la psychologie du temps et sur la dynamique cérébrale donc, qui sous-tend la perception du temps. Et j'apporte donc une approche plus psychologique en face d'Étienne Klein.
Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour converser. Allez, on commence, première partie.
Alors le temps physique, c'est un temps qui est apparu finalement assez récemment. C'est une invention de Galilée, temps physique, un temps qu'on peut paramétriser par une variable mathématique, le paramètre petit t qu'on apprend à l'école. Mais c'est une longue conquête, c'est-à-dire que pendant très longtemps, l'humanité a vécu avec plutôt un temps qui est celui que l'homme perçoit, qu'il éprouve, qu'il vit, ce qu'on appelle le temps psychologique. Mais le temps physique, lui, il apparaît pour décrire des lois naturelles, par exemple la chute des corps, qu'on peut décrire simplement en montrant qu'un corps tombe d'autant plus vite qu'il tombe depuis plus longtemps. Donc la vitesse est proportionnelle à la durée de la chute. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on sache définir le temps. Parce que le temps, c'est une notion qui s'impose à nous, très ancienne. Et quand on essaie de la définir, souvent on la définit par rapport à elle-même. On la présuppose et ensuite on la définit, ce qui fait qu'on arrive à une sorte de redondance qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc le temps, on comprend ce que c'est, on comprend le sens de ce mot, mais on ne peut pas dire qu'on sache le définir. Par contre, on sait le mesurer. En tout cas, en apparence, mesurer le temps, c'est simple. Il suffit de regarder sa montre et le mouvement de l'aiguille nous indique la durée qui s'écoule. Mais quand on y réfléchit d'un peu plus près, on s'aperçoit que cette opération n'est pas si simple parce que, en réalité, ce qu'on voit, c'est un mouvement dans l'espace. Le mouvement de l'aiguille, ça veut dire que la montre est un instrument qui transforme une durée, qui est quelque chose d'assez abstrait finalement, en quelque chose qui est spatialisé, qui se donne par un mouvement spatial. Et simplement, toute la physique s'est construite, la physique moderne, elle s'est construite sur cette variable temps qu'on a pu maîtriser, qu'on a pu saisir de mieux en mieux, et qui est assez différente du sujet qui vous intéresse.
Oui, en fait,
qui est le temps, l'expérience du temps, ce que j'appelais tout à l'heure le temps psychologique, qui a des propriétés qui se donnent à nous d'une façon qui le rend très, très différent du temps physique.
Oui, voilà. Alors nous, en psychologie, on va généralement utiliser la terminologie de temps objectif pour ce qu'on va appeler le temps physique, donc ce dont vous venez de parler, et on va parler du temps subjectif, c'est-à-dire le temps perçu. Mmh. Et donc, comme en physique, il existe plusieurs manières de regarder à la temporalité ou l'idée de la temporalité en psychologie, notamment donc la durée, le temps qui passe entre deux événements physiques en particulier, ou même deux événements émotionnels, par exemple les expériences de vie, etc. Il y a également la notion de simultanéité, où on peut voir et entendre en même temps deux événements, Donc voir un chien qui aboie ou moi qui vous écoute en ce moment par exemple.
Je parle pas. Là.
Vous parlez pas, c'est vrai. Il peut y avoir également l'aspect de rythme, donc des temps qui sont plus au niveau qu'on va percevoir par exemple en musique. Donc le temps subjectif va être très différent en fait du temps objectif. Il y a énormément d'illusions temporelles qu'on peut avoir. Je pense qu'on va en reparler.
Mais est-ce que vous croyez qu'il existe un temps psychologique autonome, qui s'écoulerait en marge du temps physique, qui se décalerait du temps physique en permanence, de sorte qu'on serait obligé d'avoir des montres pour régulièrement remettre notre propre pendule à l'heure.
Oui, alors effectivement, il y a beaucoup de modèles ou de conceptualisation du temps subjectif par le biais d'horloges internes, ce qu'on appelle les horloges internes. Donc effectivement, il y a des rythmes biologiques très grands qui vont se faire sur l'échelle des jours, des mois, etc., qui ont des mécanismes propres. Mais après, il y a le temps psychologique, lui, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à avoir une perception de la durée ou une perception de la synchronie. Donc il y a effectivement la métaphore de l'horloge, dans le cas où on a quelque chose qui va nous permettre de quantifier le temps qui passe. Et le problème qui se pose dans ce cas-là au niveau du cerveau, c'est quelle serait l'unité de temps. Donc là, par exemple, quand on regarde la montre, on va avoir une aiguille qui va montrer toutes les secondes, qui va bouger toutes les secondes. Est-ce qu'on a le même genre de choses au niveau du cerveau ? Les données ne sont pas très claires, donc il n'y a pas vraiment de données empiriques. C'est un modèle théorique qui existe depuis très longtemps. Et une possibilité, c'est effectivement qu'il existe des oscillations naturelles dans le cerveau. Donc à savoir que les neurones, les populations de neurones de ces cellules vont avoir un rythme qui va être à différentes échelles de temps. C'est-à-dire qu'ils peuvent éventuellement, qui sont cycliques, et qui pourraient éventuellement encoder le passage du temps, mais avec une unité temporelle qui n'est pas nécessairement celle de la seconde.
Bien sûr, mais on conçoit bien que dans le cerveau, il doit y avoir des processus périodiques ou des espèces d'horloges naturelles, mais pour qu'elles aboutissent à une conscience du temps qui passe par le cerveau, il faut qu'elles accèdent à la conscience, ces horloges. Enfin, qu'on ait accès par la conscience à ce qu'elles produisent. Est-ce que c'est le cas ?
Alors justement, c'est là qu'est tout le problème. C'est-à-dire que quand on est intéressé par la manière dont le cerveau fonctionne, et vis-à-vis du temps, c'est qu'on a une approche un peu fallacieuse, dans le sens où on va penser que le temps lui-même est le temps du cerveau. Donc que le temps va être encodé en termes de dynamique cérébrale. Et que donc, quand on enregistre la dynamique cérébrale, on regarde d'une certaine manière, le temps subjectif. Or, ce n'est pas vraiment le cas. Et je peux prendre juste une anecdote pour essayer d'illustrer un peu ce point-là. C'est-à-dire que si on regarde un ballon rouge dans le monde externe, on ne va pas dire que le cerveau, d'un seul coup, devient rouge et que donc on perçoit rouge. Ce n'est pas la manière dont ça fonctionne. Il va y avoir une espèce d'encodage de cette information de la rougeur qui va ensuite accéder à la conscience et du fait que moi, je perçois la couleur rouge. Donc c'est un peu la même chose dans le temps, mais c'est assez difficile à concevoir.
C'est-à-dire, est-ce que la conscience qu'on a du temps qui passe est une production du cerveau, ou est-ce qu'au contraire, pour l'avoir, il faut constamment s'appuyer sur des phénomènes extérieurs ? Moi, je pense aux expériences qui ont été faites par des spéléonautes, des gens qui se sont laissés enfermer dans des cavernes pendant des jours, des semaines, parfois des mois, plusieurs mois, et qui pouvaient communiquer avec la surface en sens unique, c'est-à-dire qu'ils pouvaient dire quelle durée ils avaient éprouvé en faisant telle activité, ils informaient la surface, qui n'avait pas le droit de les informer en retour. Et on sait qu'il y a eu des décalages énormes. Par exemple, Michel Siff raconte qu'au fond de sa grotte, il a décidé de faire du sport, enfin de se dépenser physiquement, il a pioché, et quand il a fini de piocher, il a prévenu la surface que d'après lui, il avait pioché pendant une heure. Et en réalité, il avait pioché pendant 11 heures. Ce qui veut dire que notre perception de la durée, quand on n'a pas de rythme extérieur qui vienne caler notre propre rythme, peuvent se décaler énormément. Ça veut dire que, pardonnez-moi si je le dis en ces termes, mais notre cerveau est une horloge pourrie, quoi.
Oui, dans un sens, c'est un peu vrai. En fait, on aurait besoin justement que la physique nous informe un peu sur qu'est-ce que le temps, comment est-ce qu'on peut le définir et l'abstraire des événements. Parce qu'au niveau du cerveau, au niveau de la psychologie, on est obligé de concevoir le temps en termes événementiels. C'est-à-dire qu'on va présenter des stimuli qui ont une certaine durée, on demande l'évaluation, ou on demande à la personne de reproduire une durée donnée, etc. Donc qu'est-ce qui pourrait servir comme abstraction du temps pour les psychologues
Voilà, parce qu'en fait, on identifie souvent le temps au phénomène temporel. Mm-hmm. Donc on dit le rythme du temps, c'est le rythme des phénomènes, alors que la physique, dès le début, la physique moderne avec Newton, elle dit le temps, c'est pas la même chose que ce qui se passe dans le temps. Mm-hmm. De sorte que, est-ce qu'on a le droit de dire, d'après vous, que les seules occasions dans lesquelles on a un rapport direct avec le temps physique, c'est-à-dire quand le temps psychologique est isomorphe, homogène au temps physique, mm-hmm. c'est quand il ne se passe rien, c'est-à-dire quand on s'ennuie mortellement. Sioran disait « s'ennuyer, c'est chiquer du temps pur ». Est-ce que d'après vous, par les expériences que vous faites en mesurant l'activité cérébrale, on a le droit de conclure ainsi en disant que finalement, tout ce qui se passe autour de nous nous distrait du temps physique, nous écarte de lui, nous décale par rapport à lui. Et il n'y a que lorsque on s'ennuie mortellement que le temps se débarrasse de tous les oripeaux phénoménaux qui se passent dans la vie normale.
Non, je pense pas justement qu'on puisse dire ce genre de choses, parce que dans cette idée-là, ça voudrait dire que quand on s'ennuie, justement, quand il n'y a aucun événement autour de nous, on va se rapprocher d'une durée objective vraie, enfin, de ce qui peut être mesuré en termes physiques. Or, quand on s'ennuie, le temps s'étire et se rallonge, etc. Et on a une vraie, on peut avoir une très grosse dilatation du temps présent.
Modulation quand même. Il n'y a pas une seconde qui dure une seconde.
Non, non, non. Et justement, c'est là qu'est tout le problème, c'est que en fait, il n'y a pas de durée abstraite où on va dire qu'on a un modèle de ce qu'est une seconde dans le cerveau. Donc ça, on l'a pas. Et généralement, dans les expériences, il faut des apprentissages pour que la personne sache un peu qu'est-ce qu'une seconde ou qu'est-ce que 500 millisecondes, etc.
Est-ce que vous pensez qu'un jour, quand on aura bien compris les mécanismes cérébraux qui codent plus ou moins bien la durée, qu'on pourra se passer de montre ?
Bonne question. Non, je ne pense pas.
Là, c'est une information pour les horlogers. Est-ce que c'est une profession d'avenir ? Ou est-ce qu'il faut...
Non, je ne pense pas. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des études qui ont vraiment essayé d'inculquer en fait ce que sont vraiment les durées. Disons que dans notre apprentissage de la vie, enfin que ce soit à l'école ou dans la vie de tous les jours, on n'apprend pas nécessairement ce qu'est une seconde ou ce qu'est une minute. On a juste une approximation. On peut faire une analogie par exemple avec le absolute pitch, c'est-à-dire la possibilité de certaines personnes de dire que voilà, ils ont entendu la note fa ou la note la, etc. Et en perception de la durée, on n'a pas ce genre de possibilité. C'est une expérience que beaucoup de personnes semblent avoir, que plus on vieillit et plus le temps semble être plus rapide. Alors, je peux répondre un peu au niveau peut-être de psychologie. Il n'y a pas énormément de données empiriques, parce que c'est difficile de tester ça. Mais effectivement, c'est quelque chose dont on a conscience au fur et à mesure. Donc il y a deux façons de voir la chose. La première, c'est effectivement un rapport de temps, un rapport dans l'âge. Donc quand on a 5 ans, 5 ans et demi par exemple, on va avoir une journée qui fait une certaine fraction de la durée de la vie qui a été vécue jusque-là. Et quand on arrive à 50 ans, cette fraction-là va encore plus diminuer par rapport au temps qu'on a vécu. Donc du coup, toutes les journées vont paraître comme étant beaucoup plus rapides, étant une petite fraction. Et puis il y a une autre façon d'aborder la chose en se disant que ben, plus on vieillit et moins les choses qui nous entourent sont surprenantes. Donc on va avoir une façon en fait de prédire un peu la vie qui est plus facile. Et donc généralement donc dans la perception, quelque chose qui est surprenant va être considéré comme étant un peu plus long dans la durée. Donc ça c'est un peu l'effet de surprise qui disparaîtrait au cours du temps. Donc ça je pense que c'est du point de vue psychologique. Maintenant je sais pas au niveau.
Disons la question posée, je la comprends et je la comprends pas. C'est-à-dire, ce que je comprends c'est qu'effectivement quand on vieillit, le temps se donne à nous par le prisme de la mort. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a un terme auquel on va arriver. On ne sait pas où il est, mais on sait que plus on vieillit, plus il est proche. Comme disait je ne sais plus qui, dans le passé, il y avait plus d'avenir que maintenant. D'où le sentiment d'une urgence qui peut conduire au sentiment d'une accélération du temps, au sens où on essaie de ne plus gâcher le temps qui nous est donné pour lui donner davantage de sens. Ce qui pourrait d'ailleurs contribuer, non pas à l'accélérer, mais plutôt à le ralentir. Donc voilà moi ce que je comprends quand j'entends la question. Mmh. Et on peut évidemment corroborer ce sens-là en disant que des mesures ont été faites qui montrent que la vitesse de cicatrisation, par exemple, varie avec l'âge et que donc une espèce de rythme interne qui semblerait s'accélérer ou se ralentir, je ne sais plus, qui conduirait à ces variations dans la vitesse de cicatrisation des corps. Maintenant, fondamentalement, la question, je ne la comprends pas. Parce qu'elle évoque une accélération du temps, c'est-à-dire d'abord une vitesse du temps, il y aurait une vitesse qui augmenterait, c'est ce qu'on appelle une accélération. Or, cette notion de vitesse du temps, personnellement, je ne la comprends pas. Puisque une vitesse, par définition, c'est une dérivée par rapport au temps. Donc dire que le temps a une vitesse voudrait dire que le temps modifie son rythme d'écoulement par rapport au rythme d'écoulement du temps, ce qui n'a pas de sens. Ou alors si on veut donner un sens à cette phrase, il faudrait dire que le temps est cette chose qui avance de 24 heures, toutes les 24 heures. Bon, et on est bien avancé. D'accord. Donc cette notion de vitesse du temps, j'arrive pas à en comprendre le sens, et donc encore moins celui d'une accélération du temps. On dit souvent que le temps s'accélère, avec l'âge ou même avec la vie moderne, au motif que le rythme de nos activités, le rythme des productions, le rythme des informations s'accélère. Soit. Donc c'est notre emploi du temps qui s'accélère. Mais c'est pas parce que nous sommes speedés que le temps lui-même s'accélère. Et ça, c'est peut-être une leçon qu'on peut tenir de la physique, c'est que rien ne peut affecter le rythme du temps pour un observateur dans son référentiel propre. Du coup, c'est une affaire pour vous, c'est-à-dire c'est une affaire pour la perception du temps.
Oui, c'est la perception vraiment subjective du temps, mais juste pour rebondir sur l'aspect des horloges, justement, donc le fait qu'on ait besoin d'horloges, c'est peut-être justement pour essayer qu'on ait tous ces espèces de rythmes biologiques, puisque effectivement, quand on enregistre la dynamique cérébrale, chacun va avoir une petite variation dans les différentes oscillations du cerveau qu'on peut enregistrer. Et c'est peut-être ça, si c'est effectivement la base de la perception subjective du temps, qui peut expliquer qu'on ait des variations en termes interindividuels de ce que veut dire une heure, par exemple.
D'accord, mais vous êtes d'accord que une heure, que je la passe à jouer aux boules, ou chez le dentiste, dure une heure.
Oui.
Mais la perception que j'en ai, évidemment, va...
Oui, et là, d'ailleurs, c'est un paradoxe qui est assez intéressant parce que, justement, quand on est dans la salle d'attente chez le docteur, donc l'heure va passer, va être ressenti en fait comme deux heures parce qu'on est dans l'attente, alors que si on est au cinéma, etc., le film va passer et va être très rapide. Et après ça, on a un paradoxe parce que ça, c'est le temps perçu dans le présent, donc tel qu'il est. Et après, quand on se remémore ces événements-là, en fait, la distorsion est inversée. C'est-à-dire que lorsque l'on va percevoir dans le présent une durée qui s'allonge, en rétrospective, dans la mémoire, c'est un événement de la vie qui disparaît quasiment. C'est-à-dire que l'épisode de la salle d'attente, on ne s'en souvient plus. Ce n'est pas quelque chose qui est très marquant. Et en termes de durée, c'est pareil. Par contre, le cinéma qui nous a plu, ou le premier rendez-vous amoureux, etc., on va s'en souvenir, et on va se souvenir de tous les détails, comme si ça avait pris toute une journée, alors que ça a duré qu'une heure.
C'est-à-dire je comprends bien, le souvenir d'une durée peut démentir la perception de la durée quand on l'a
vécu, exactement, dans le présent.
Et est-ce que ça rejoint l'adage populaire selon lequel on ne se souvient que des bonnes choses ?
Pas nécessairement, parce qu'il peut y avoir des mauvaises choses qui sont émotionnellement très marquantes. Donc la mort d'un proche, etc., sont aussi des événements qui vont se marquer dans la mémoire parce que y a également une attention quasiment qui n'est pas portée au temps. En fait, il y a une composante aussi qui fait que si on fait toujours attention au temps qui passe, le temps va s'allonger. Alors, je parle du temps subjectif, bien sûr, pas le temps physique, je suppose. Dans une journée bien remplie, on a énormément de choses, on n'a pas le temps, justement, de faire attention au temps, et donc la journée va passer très vite. Donc, il y a beaucoup de petits paradoxes comme ça.
Mais, en fait, on comprend parfaitement ce que vous dites, et moi, je m'énerve un peu contre... cette notion de vitesse du temps, mais en même temps, elle est utile pour décrire les phénomènes que vous évoquez. Okay. Et on se comprend bien. Mais il me semble qu'il y a aussi des cas où le fait d'invoquer une vitesse du temps conduit à des malentendus. Mm-hmm. Et par exemple, quand on essaie d'expliquer la théorie de la relativité d'Einstein. Mm-hmm. Parce que si vous lisez des livres de vulgarisation, on vous explique qu'Einstein a démontré qu'il existait un temps universel dont la vitesse d'écoulement dépend de la vitesse de l'observateur. C'est-à-dire, si je me déplace dans l'espace, mon temps ne va pas s'écouler comme il s'écoule quand je suis immobile dans ce studio, par exemple. Et alors, donc, si on comprend les choses ainsi, ça signifie quoi? Ça veut dire que si ici, il me faut 2 heures pour lire un livre, si ensuite je monte dans une fusée qui va à la moitié de la vitesse de la lumière, par exemple à 150 000 km par seconde, combien de temps il va me falloir pour lire le même livre? À ma montre, la montre que j'aurai emmenée avec moi dans la fusée, il faudra 2 heures. Donc le même temps qu'ici. Donc il y a une sorte de malentendu autour de la relativité qui vient du fait qu'on veut l'expliquer en disant que la vitesse d'écoulement du temps dépend de l'observateur, alors que ce que dit fondamentalement Einstein, c'est non pas qu'il existe un temps universel dont la vitesse d'écoulement dépendrait de l'observateur, mais qu'il y a autant de temps propre qu'il y a d'observateurs. Mon temps propre, c'est celui qu'indique ma montre. Votre temps propre, c'est celui qu'indique votre montre. Ces deux temps sont synchrones, coulent ensemble, uniformément, uniquement parce que nos vitesses de déplacement l'un par rapport à l'autre, en l'occurrence, sont nulles. Et même si vous partiez en voiture ou en avion, lorsque nous nous retrouverons, nos montres seront encore synchronisées. Tout simplement parce que la vitesse des avions est négligeable devant la vitesse de la lumière. Mais si, alors on peut prendre le problème à l'envers, on peut imaginer un univers dans lequel la vitesse de la lumière ne soit pas de 300 000 km par seconde, ce qui est le cas dans notre univers, mais disons de 80 km/h. 80 km/h, donc la vitesse limite du périphérique. Je quitte cette salle, je prends ma voiture, je fais un tour du périphérique à 60 à l'heure. Donc aux 3/4 de la vitesse de la lumière. Quand je reviens ici, vous êtes tous morts. Vous êtes tous morts, non pas parce que j'aurais vécu plus que vous, mais parce que mon temps propre se sera désynchronisé du vôtre. Vous aurez vécu tous, 100 ans. Et pour moi, il se sera écoulé une demi-heure. Et il me restera pas mal d'années à vivre, j'espère. Mais ça veut dire que les temps propres se désynchronisent quand la vitesse relative des observateurs devient non négligeable devant la vitesse de la lumière. Donc c'est pas la même chose de dire que le temps s'écoule plus ou moins vite selon la vitesse qu'on a dans l'espace et de dire ce que je viens de dire là. Donc le langage est intéressant, mais parfois il conduit à installer dans la culture des façons de penser qui sont le contraire de ce qu'on a voulu dire. Alors la question, c'est de savoir comment parler de façon pertinente du temps. Parce que parler du temps, on sait faire. C'est un mot qu'on utilise tout le temps, qui est un mot familier, qu'on retrouve dans des tas d'expressions de la langue commune. Mais la question, c'est comment en parler de façon pertinente, c'est-à-dire qui rende justice à ce que nous savons du temps. Alors je commencerai moi par faire une remarque, c'est que nous parlons du temps aujourd'hui comme on en parlait il y a 2000 ans. Si vous lisez, par exemple, le livre des Confessions de Saint-Augustin, le livre 11, célèbre bouquin qui parle du temps, vous le lisez aujourd'hui, il a été écrit au 4e siècle après Jésus-Christ, et vous comprenez exactement ce qu'il veut dire. Donc ça veut dire que le langage n'a pas évolué. Nous disons le temps toujours de la même façon, avec les mêmes phrases, le temps s'écoule, on compare un fleuve, etc. Or, la physique a fait des révolutions, peu nombreuses, mais très fondamentales, qui ont modifié notre représentation du temps, son lien à l'espace, à la matière, à l'énergie, etc. Et ce que j'observe, moi, c'est que ces révolutions scientifiques n'ont nullement affecté notre façon de parler du temps. Et donc, si on considère que notre façon de dire le temps détermine notre façon de le penser, qui est une sorte d'ensorcellement du langage qui vient déterminer la pensée, si nous le disons mal, nous le pensons mal.
Je ferai un peu l'inverse quand même, la pensée du temps détermine la manière dont on en parle.
Oui, mais je pense qu'on l'a pendant très longtemps comparé à un fleuve. Quand on dit que le temps s'écoule, c'est parce qu'on le compare à un fleuve. Mais est-ce que le temps peut avoir les propriétés qu'ont les fleuves? La réponse, c'est non. D'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure à propos de la vitesse. Un fleuve a une vitesse d'écoulement, un temps, c'est plus délicat, puisque la vitesse, encore une fois, est une dérivée par rapport au temps. Donc le temps s'écoule dans quelque chose, Et à force de comparer le temps à un fleuve, on soulève des tas de problèmes qu'on ne discute jamais. Par exemple, le fleuve s'écoule dans son lit. Et donc, pour dire l'écoulement du fleuve, il faut invoquer un milieu dans lequel le fleuve s'écoule et qui lui-même ne s'écoule pas. Question, dans quoi le temps s'écoule-t-il ?
Ce serait un peu la question de référentiel, en fait.
Voilà. Et je trouve qu'à force de ne pas traiter ces questions, on se maintient dans des façons de parler qui, lorsqu'on les analyse finement, n'ont plus beaucoup de sens. Je vous donne juste un exemple et après vous aurez tout le temps de me contredire. Mais on dit le temps passe. Et d'ailleurs on dit ce qui fait que le temps est le temps et qu'il oppose à l'espace, c'est le fait que lui s'écoule alors que l'espace ne s'écoule pas. Mais est-ce que c'est vrai que le temps passe ? Si je dis que la fonction principale du temps, c'est de renouveler l'instant présent. C'est un postulat. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je fais l'hypothèse que ce que fait le temps, c'est dès qu'un instant présent apparaît, il l'élimine pour le remplacer par un nouvel instant présent. Bon. Donc dans cette conception-là, la fonction du temps, c'est de faire passer la réalité. Et comme la réalité ne cesse pas de passer, le temps qui la fait passer ne passe plus. Autrement dit, il y a toujours du temps qui est là à faire son travail de temps, c'est-à-dire à faire passer la réalité. Autrement dit, en disant que le temps passe, il se peut que je commette la même erreur que si je disais qu'un chemin chemine. Autrement dit, je confonds l'objet et sa fonction. Un chemin ne chemine pas, il permet à des promeneurs de se promener. Le temps ne passe pas, il fait passer la réalité. Alors ça a l'air complètement débile, mais de fait, le temps qu'a inventé Newton pour fonder sa mécanique, c'est un temps qui ne passe pas. C'est-à-dire le temps de la physique est un temps qui ne change pas sa façon d'être le temps au cours du temps. C'est-à-dire c'est un temps homogène, auquel il n'arrive rien. Quoi qu'il se passe dans le temps, ça n'affecte pas le temps, chez Newton. Et donc on a là, en physique, un temps dont on ne parle pas bien, puisque le langage continue d'identifier le temps au phénomène temporel et à la perception que nous en avons. Autrement dit, et c'est l'objet du débat, de la question en tout cas, c'est que je pense que notre langage parle du temps que vous étudiez, c'est-à-dire de notre expérience du temps, et très rarement du temps lui-même. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, effectivement, le temps perçu va conditionner un peu le langage, ou peut-être l'inverse, c'est-à-dire que notre monde interne, notre monde psychologique, la manière dont on a été adapté par l'évolution, par exemple, ou ce genre de choses, va contraindre la manière dont on va concevoir le temps. Et donc, effectivement, via le langage, via d'autres choses comme la gestuelle, donc, par exemple, lorsque vous... observez autour de vous, lorsque les personnes donc, font de la gestuelle comme ça quand ils parlent, éventuellement ils vont dire avant et après. Et avant va être sur la gauche, après va être sur la droite, ce qui suggère généralement qu'il y a une espèce de ligne abstraite qui se forme dans leur cerveau. Alors c'est pas quelque chose qui est conscient, mais c'est peut-être révélateur de la manière dont les opérations cérébrales vont s'effectuer sur le temps, sur l'analyse temporelle.
Mais c'est parce qu'on a intégré dans notre cerveau l'image d'un cours du temps, un axe des temps, oui. qu'on met toujours de gauche à droite.
Alors, c'est possible, mais là, ça serait par exemple des études à faire pour aller dans les mondes indiens, par exemple, où la notion du temps est circulaire et pas linéaire comme on a en Occident, ou ce genre de choses. Donc là, ce sont des études qui, effectivement, pourraient se faire.